Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche, c'est l'heure du Grand Fauve. À l'affiche ce soir, une rediffusion « Vie et destin » de Roland Garros. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
La traversée de la Méditerranée marque une des grandes dates de l'aviation française et mondiale. Un succès sans précédent, ni point de comparaison. La récompense du travail d'équipe et l'aboutissement de la volonté du pilote. Elle a été faite par Roland Garros.
Aviateur hors pair, le nom de Roland Garros est évidemment associé à l'un des plus grands tournois de tennis au monde. Et si on devait sonder le public dans les gradins, il est à craindre qu'on ait oublié l'ampleur du destin qui se cache derrière ce patronyme. Retour ce soir sur la vie de ce héros européen. À l'affiche cette semaine, donc, deux invités au micro d'Inter pour se remémorer l'intense aventure que fut la courte existence de Roland Garros. Tout d'abord, il est historien du sport, professeur à l'Université de Bordeaux et spécialiste du sport aérien. Luc Robben, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, il est journaliste, écrivain, il est comme chez lui, et fin connaisseur de la vie de Roland Garros, Benoît Emmermann, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minon. Ce soir, Eric Satie et sa partie de tennis au piano. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Au menu ce soir, Roland Garros, quand l'aviation était un sport.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors vous le savez, dorénavant, nous débutons cette émission par la minute musculaire de Robert Reynaud, sémillant professeur de gymnastique, qui sévissait donc sur les ondes de l'ORTF dans les 50s et dont nous venons de publier à l'instant une photo d'époque sur le compte Twitter de l'œil du tigre afin que vous puissiez voir à quoi ressemblait ce professeur Robert Reynaud. Ce soir, il vous propose d'imiter le bûcheron. Vous allez tailler du bois pour l'hiver.
Et c'est le bûcheron que vous allez imiter. Vous écartez les deux jambes tendues sur les côtés, vous levez les bras au-dessus de la tête, vous croisez les doigts au-dessus de la tête et vous imaginez que vous tenez vraiment en main le manche d'une cognée, le manche d'une très lourde hache. Et comme le travail ne vous fait pas peur, vous vous attaquez à deux arbres en même temps, un arbre situé à votre droite et l'autre situé à votre gauche. Vous frappez donc alternativement sur l'arbre de droite et sur celui de gauche. Frappez très fort avec nous, d'abord vers la droite, en lançant le buste en avant et les deux bras à l'extérieur de la jambe droite. Vous remontez jusqu'à la verticale. Maintenant, vous frappez sur l'arbre de gauche. Frappez très fort en lançant les deux bras à l'extérieur de la jambe gauche. Vous remontez encore et nous recommençons. Vers la droite, très fort, remontez. Frappez vers la gauche et très fort, vous remontez, c'est bien. Vers la droite, vous remontez. Vers la gauche ensuite et très fort, puis vous remontez. Allez, à droite, fort, vous remontez, lancez vers la gauche, très loin, vous remontez. Enfin, une dernière fois, vers la gauche et vous remontez.
Ah là là, sacré professeur Robert Reynaud. Après les exercices champêtres et gymniques, c'est l'heure d'un chevalier du ciel, voici l'histoire du dimanche soir. C'est un homme du 19e siècle. Et en toute occasion, Roland Garros portait des costumes de ville avec des chemises à rayures tennis. Peut-être son seul véritable lien avec ce sport bourgeois et distinctif du début du XXe siècle. Roland Garros était une âme solitaire. Il a grandi loin de ses parents, installé en Cochinchine. Et très jeune, il a dû faire face à ses responsabilités. Courageux, esprit vif et doté d'un caractère opiniâtre. Ces trois qualités ne l'ont jamais quitté durant sa courte vie, mais... pourquoi un pionnier de l'aviation a-t-il légué son nom depuis 1928 à l'un des plus grands tournois de tennis au monde?
Auréolé par le triomphe de nos joueurs de Coupe Davis, le tennis va faire un malheur dans le public français. Mais le central de la faisanderie est trop petit pour le contenir. Émile Lesueur pour le Stade français et Pierre Gilloux pour le Racing obtiennent de la ville de Paris la cession d'un grand terrain proche de la porte d'Auteuil. Une arène de 10 000 places, primitivement en bois, y est construite dans un temps record pendant l'hiver 1927-28. Le stade est baptisé du nom d'un grand sportif, pionnier de l'aviation civile du début du siècle, Roland Garros.
Alors, ce son ne répond pas véritablement à la question que j'ai posée il y a quelques instants, mais nous allons tenter d'y répondre ce soir. Il y avait un indice déjà dans ce son, c'est Émile Le Sieur, on va y revenir, grand ami de Roland Garros. Benoît Emmermann, vous êtes écrivain, journaliste et fin connaisseur de la vie de Roland Garros, sur laquelle on va se pencher ce soir ensemble. Mais juste pour commencer, est-ce qu'il a déjà joué au tennis une fois dans sa vie?
Oui, absolument. Absolument.
Quand même.
Tout de même. Effectivement, d'abord, ce n'est pas un sportif à l'origine et c'est même un malade.
Assez chétif,
atteint de pneumonie, etc. Né dans les colonies, effectivement, il est né à La Réunion, il a grandi à Saïgon, et il est malade, et ses parents pensent que le bonheur sur les hauteurs de Cannes lui fera le plus grand bien. Non seulement ça lui fait le plus grand bien, mais il découvre
Cannes, Côte d'Azur.
Mais il découvre le sport. Et tous les sports. Et c'est un boulimique. Il joue au football, et c'est un cycliste surtout.
Il va être assez doué au vélo.
Absolument, hein, il est champion de France scolaire. Mm-hmm. Et il joue au tennis aussi, parce que le tennis est la grande affaire de la Côte d'Azur à l'époque. Mais ce qui l'intéresse beaucoup, beaucoup, c'est la nouveauté. C'est quelqu'un qui est intéressé par le modernisme, qui est intéressé par ce qui bouge. Ce siècle naît, le téléphone, l'électricité, et surtout les moyens de locomotion. Et il est obsédé par ça. Bicyclette, bien sûr, on l'a dit, mais motocyclette et
voiture,
évidemment, il possédera de très belles voitures et... On en parlera dans cette émission, évidemment, l'avion.
L'avion, évidemment. Alors, on parle justement de siècle qui naît. Luc Robène, vous êtes historien du sport et spécialiste, justement, du sport aérien. Pour commencer, Luc, il faut rappeler à nos auditeurs ce soir à quel point, au début du siècle, l'aviation est un sport, à la fois un véritable sport, il y a des vedettes de ce sport-là, et un sport extrêmement populaire, Luc. C'est un des grands sports du début du XXe siècle.
Oui, c'est un sport. Alors, dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire c'est aussi un sport de vitesse, d'altitude. L'invention de l'aéroplane, c'est dans le droit fil de l'invention du cycle, de l'automobile, une activité de performance qui sera essentiellement maîtrisée, au moins à ses débuts, par les élites. Il faut quand même rappeler que c'est aussi un sport qui renvoie à la leisure class, à la classe de loisirs. Mm-hmm. Bon, c'est une activité qui est extrêmement médiatisée par la presse écrite. La presse va même créer des prix spécialement, comme elle l'a fait pour le cyclisme, pour l'automobilisme, elle va créer des prix. Et puis, c'est un sport qui fascine, qui mobilise les foules. C'est un sport spectaculaire.
Luc, ça mobilise les foules. Il faut préciser, par exemple, que pour des départs de meetings aériens entre Paris et Rome, au départ de Vincennes, il y a 500 000 personnes.
Oui, c'est énorme.
Il faut dire ce que c'est. C'est énorme, c'est très
populaire. C'est absolument gigantesque. Mm-hmm. Alors, on connaissait déjà le phénomène avec l'aérostation, qui a longtemps rassemblé, mobilisé les foules, ce qui s'envole, voilà, le ballon, et maintenant l'aéroplane. Personne n'aurait imaginé voir un homme s'envoler sur une machine plus lourde que l'air. Ça a commencé en France, au moins avec Santos Dumont, fin 1906. On a poursuivi avec d'autres aviateurs, Farman, etc. Et puis il y aura Roland Garros. Donc la presse suit ça de près, encourage. Et puis le cinématographe même. Quelqu'un comme Max Linder va sortir en 1913 un petit film qui s'appelle Max pratique tous les sports. Et à l'intérieur de ce petit film, on voit en gros ce que devait maîtriser un homme du monde, toutes les activités sportives, les sports athlétiques et évidemment l'aviation, l'envol de l'aéroplane. Donc voilà, la conception qu'on a avant la guerre de 14, c'est effectivement que l'aviation est un sport. Ça ne se discute même pas. Quand on analyse la surface éditoriale d'une revue comme La Vie au Grand Air, qui était un très beau magazine de sport, en 1910, j'ai évalué à 40% la surface éditoriale consacrée à l'aéronautique en général, c'est-à-dire ballon, dirigeable, aéroplane. Voilà un petit peu la représentation qu'on a et ce qui est véhiculé dans les imaginaires, cette construction sportive de l'aviation qui va aussi se doter de héros. On y reviendra sans doute avec Roland Garros.
Absolument.
L'héroïsation
absolument
des aviateurs.
Benoît, on l'a déjà dit, donc il est né en 1888, Roland Garros, à Saint-Denis, La Réunion. Il va émigrer avec ses parents en Cochinchine à l'âge de 4 ans. Il va y rester jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est une jeunesse au long cours. On est loin de la métropole. Il va revenir en France, comme vous l'avez déjà dit, Benoît. Il va être au lycée à Cannes. Et puis, il va remonter à Paris pour sa classe de terminale, où il va passer son bac, va enchaîner HEC, l'école, la grande école de commerce, où il va devenir ami avec Émile Le Sieur. On en reparlera tout à l'heure d'Émile Le Sieur, mais ils vont être très amis ensemble après le lycée à HEC. Et puis, il va commencer par ouvrir une petite concession de bagnole. Ça s'appelle les voiturettes de sport Roland Garros. C'est au pied d'Arc de Triomphe. Il a une petite boutique. Ça marche plutôt très bien, d'ailleurs. Ils vendent pas mal de bagnoles de sport. Et puis là, arrive l'été 1909, Benoît. Il est en vacances à Sapicourt, près de Reims. Et il a une révélation. Qu'est-ce qui se passe, Benoît, à Sapicourt, près de Reims?
Ben, il découvre vraiment la manière dont on peut s'occuper avec ses appareils et faire des meetings comme il en fait. Moi, ce qui me sidère tout de même, vous parliez de popularité, c'est vrai, très près d'ici, à la Maison de la Radio, et ici, les Moulineaux, c'est des foules gigantesques qui venaient admirer ces aviateurs. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est, vous avez raison, c'est cette popularité qui existe, cette popularisation de ce sport et de ces personnages qui se créent. Il faut voir Roland Garros de cette époque-là, je veux dire, avec sa casquette à l'envers, comme un rappeur d'aujourd'hui.
Oui.
Et surtout, et on compose même des duels. Je veux dire, le Borg McEnroe de l'époque, c'est Védrine et Roland Garros. Et les deux sont nés à Saint-Louis. Mais pas le même Saint-Louis. Le Saint-Louis de la région parisienne pour Védrine, c'est un poulbeau, c'est un gouailleur, etc. Un personnage tout à fait typique que la population aime beaucoup. Et de l'autre côté, vous avez plutôt un dandy, quelqu'un qui est bien habillé.
Donc, qui porte des trois pièces, etc. Des cravates, des chemises
voilà,
blanches.
Vous avez raison de dire qu'il y a, il y a comme un montage pour bien faire mousser, on va dire. Mais les performances existent. Ce qui est sidérant, c'est la rapidité. On vole pour la première fois en 1903 à Kitty Hawks aux États-Unis en Caroline. Et 10 ans après, on en est déjà à projeter de traverser la Méditerranée.
C'est incroyable, ça va vite.
Et Roland Garros prend très vite cette mesure-là. Effectivement, vous parliez de 1909, qui est une date importante, puisque c'est la première fois qu'on traverse la Manche avec Blériot. Mais c'est 42 kilomètres. Lui, il envisage de franchir 800 kilomètres. Mm-hmm. Donc, en l'espace de quelques années seulement, on multiplie par 10 ou par 20 les performances qu'on faisait hier ou avant-hier.
Luc Robben, effectivement, il est happé par ce meeting aérien à Sapicourt. Il est fasciné par ses aviateurs. Il veut absolument participer à cette aventure. Donc, il va s'acheter un avion. Il va apprendre à piloter seul. Il aura son brevet après coup, d'ailleurs. Il va même réussir à se faire embaucher, entre guillemets, après 3 heures de vol pour des grands meetings aux États-Unis à New York. Et on va le surnommer The Cloud Kisser, hein, l'embrasseur de nuages. Pour quelle raison on l'appelle The Cloud Kisser, Luc?
Oh ben, sur la tournée que vous évoquez, qui était
tournée américaine
organisée par Moisan, on a parlé de cirque aérien, on était déjà dans une logique extrêmement spectaculaire d'exhibition. Et donc, dans ce cadre-là, lui et Audemars, son grand compagnon en aviation, le Suisse Audemars, étaient des types extrêmement audacieux. Hein. L'audace, ça fait quand même partie de cette aventure aérienne. Mmh. Et donc, sur la question de l'apprentissage, parce que c'est important, le concept d'école d'aviation n'existe pratiquement pas, hein, faut quand même le dire. Donc, il s'achète un petit appareil, une demoiselle qui est vraiment une espèce d'ULM, hein, c'est-à-dire ça fait 5 mètres d'envergure, ça a été construit par Santos Dumont, ça pèse 60 kilos à vide, et puis, alors, c'est l'appareil en toile avec du bambou, des roues de vélo, et puis il apprend à voler, effectivement, tout seul là-dessus, avec beaucoup de casse.
Qu'on surnomme la tueuse d'homme, hein, c'est tellement dangereux, la demoiselle, qu'on appelle la tueuse d'homme.
Et il va se casser la figure plusieurs fois. Il apprend tout seul. Alors il a, en plus, on pilote de la main gauche, la profondeur de la main droite, le gauchissement des ailes avant qu'on ait les volets. C'est un gilet qu'on met qui est relié à des câbles, donc c'est corporellement extrêmement complexe en fait. Hein.
Voilà. Et physique.
Donc, et physique.
Et là où on revient au sport évidemment.
Voilà. Mmh. Alors pour revenir à sa tournée aux États-Unis, oui, c'est sans doute là qu'il apprend véritablement à voler et qu'il commence à maîtriser l'air. Il s'essaiera même à quelques spirales, quelques pirouettes. Donc cette tournée américaine va lui permettre où on organise des courses de vitesse avec une automobile. Enfin, il y a un côté très spectaculaire, mais va lui permettre d'appréhender réellement l'appareil, la conduite de l'appareil.
Et The Cloud Kisser, parce que donc l'embrasseur de nuages,
il monte très haut.
C'est aussi son grand désir de l'altitude.
Ouais, hein, il n'aura de cesse que de battre des records d'altitude, et on retrouve donc la logique sportive qu'on évoquait au début de l'émission. C'est aussi pourquoi on parle de sport aérien, parce que c'est une activité de record.
Oui, hein.
On mesure tout, la hauteur, le nombre de passagers quand on enlèvera des passagers, la distance.
Bien sûr.
Et cette période que vous évoquiez, donc entre le 25 juillet 1909, c'est-à-dire la traversée de la Manche par Blériot, et puis 1913, la traversée de la Méditerranée, elle est marquée quand même aussi par la naissance des meetings aériens, puis des courses de ville à ville, puis des raids plus importants. Donc, il y a une logique aussi de performance, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut.
Alors allons jusqu'en 1913. Hein. Du coup, on y est. En 1913, il a effectivement ce désir et ce projet fou et secret, d'ailleurs, au départ, de traverser la Méditerranée avec un avion. Donc, premier vol intercontinental. Nous sommes à la fin de l'été, début de l'automne, 23 septembre 1913. Il est à Fréjus, un périple extraordinairement dangereux et extraordinairement fou, Benoît Immermann. Comment ça se passe?
Alors, surtout, effectivement, il a tout de même des antécédents, comme vous le dites. Il s'est exercé, il a fait des performances, il est monté en altitude très haut, à 3910 mètres. C'est lui qui détient le record d'altitude. Il s'est déjà exercé entre Tunis et la Sicile. Donc, il part pas d'une page blanche. Il a tout de même exprimé. Mais c'est un saut dans l'inconnu qui est énorme. Et effectivement...
C'est 800 kilomètres.
C'est 800 kilomètres. Mmh, mmh. Et donc, il faut rester grosso modo 8 heures en l'air. C'est des appareils qui allaient...
Ce sera 7h53 précisément.
7h53, voilà. Donc voilà, ça va à 100 à l'heure à peu près. Donc effectivement, c'est des vraies performances. La preuve, la même année, Pegu fait son premier looping. Donc effectivement, c'est d'une période où on veut innover, on veut épater, on veut devenir le meilleur, on veut devenir le Federer ou je ne sais pas quoi de l'aviation. C'est du sport, c'est dans les rubriques sportives. Mm-hmm. Et ça le restera d'ailleurs très longtemps, l'aviation dans les rubriques sportives. Donc voilà, il a ce défi, il a cet avion qui est tout de même assez abouti, même si quand on le voit, effectivement, vous avez totalement raison, c'est des avions qui à l'époque, ce sont des ULM, quoi. C'est-à-dire, ah oui, c'est quelques tubes, c'est un peu de toile.
Là, le Morane Saulnier est quand même plus solide.
Mais quand on le voit, il est plus solide, mais quand on le voit assis, ça fait, ouais. Il est quasiment à l'air libre.
Oui, oui.
C'est complètement étonnant. Donc, il est tout de même bien préparé, parce que toutes les performances, que ce soit Blériot, que ce soit Lindbergh plus tard, le bon avion au bon moment, c'est leur hache, il faut avoir le bon instrument. Et il a le bon instrument aussi.
Mais Luc Robben, précisons un tout petit peu les conditions. Il s'embarque sur un avion avec 200 litres d'essence, qui est déjà un tombeau ouvert, hein, 200 litres d'essence à embarquer comme ça pour 800 bornes. Et puis, il y a des problèmes en cours de route, c'est-à-dire qu'il y a le moteur qui lâche d'un côté, je crois. Enfin, c'est affreusement dangereux.
Il a eu de grosses frayeurs de moteurs qui semblaient caler ou faire des bruits bizarres. Bon, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une aventure. Blériot aussi, sur la traversée de la Manche, avait eu, sur une distance plus courte, des problèmes aussi. C'est la grande peur des aviateurs, c'est-à-dire la panne. Alors Garros, ben on le sait parce qu'il a quand même raconté beaucoup de choses, il sait planer, mais enfin quand on est au milieu de la Méditerranée ça sert pas à grand chose, il va pas atterrir au-dessus de la mer. Donc 200 litres d'essence, c'est effectivement une bombe volante, il lui restera 5 litres je crois à l'arrivée.
5 litres à l'arrivée.
Il calcule dans sa tête, hein, il raconte, il calcule, est-ce que je vais avoir assez.
Il
n'y a pas de jauge. À la boussole.
Oui,
hein,
oui.
En se dirigeant à la boussole.
Et voilà, alors c'est l'autre aspect intéressant, je crois qu'il faut rappeler à vos auditeurs qu'on vole à vue, boussole oui, mais c'est la vitesse du vent sur le visage, c'est les oreilles, c'est ce qu'on entend.
On est à l'air libre.
Mm-hmm. Il fait froid quand on est haut. La dimension corporelle dans cette première période de l'aviation, elle est vraiment essentielle. C'est une véritable aventure physique aussi.
Et donc il se pose à Bizerte, donc en Tunisie, le 23 septembre 1913. Il va revenir en paquebot à Marseille, puis accueilli à Paris. Là, il est au firmament de sa gloire. C'est une coqueluche en France. C'est le premier Français qui fait un vol intercontinental dans ses zincs, complètement prototypaire. Donc c'est vraiment une immense coqueluche.
Et toujours, il faut chercher pourquoi ils le deviennent aussi. Si, par exemple, Mermoz est devenu une star, c'est grâce à Saint-Ex aussi et grâce à Kessel, c'est-à-dire ceux qui écrivent sur lui. Et à l'époque aussi, il y avait vraiment des journalistes, des spécialistes comme Mortan, etc., qui étaient capables de faire monter en neige la popularité de ces personnages. Donc il y a aussi toujours derrière le journaliste ou l'écrivain qui profite un petit peu de ce héros pour en faire effectivement un mythe vivant.
Luc, c'est effectivement un
héros. Oui, alors il est très ami avec Mortan et Franz Reichel aussi, les journalistes qui comptent pour l'époque. Et il faut rappeler que Mortan créera un journal qui s'appelle La Guerre Aérienne Illustrée, dans laquelle il va raconter la guerre de 14-18 et amplifier encore ce phénomène de la construction du héros et même d'une vision assez sportive de la guerre à ses débuts, où on compte les avions abattus comme un petit peu comme on compterait les points de la Ligue 1.
C'est absolument remarquable
et on parle du grand match. Donc sur la question de l'héroïsation, je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut toujours réfléchir au moment où se produit la bascule. Je pense que le Grand Prix de l'Aéroclub de France en Anjou a été décisif en 1912 parce que c'était un circuit extrêmement compliqué. C'était un triangle Cholet-Saumur-Angers. Il fallait le faire 7 fois en 2 jours. Il y avait un temps épouvantable et Roland Garros est un des seuls qui arrive à s'élever dans les airs. Et il héritera du titre de champion des champions à l'issue de cette épreuve. Et là, je pense que la stature du héros est en train de naître. Elle ne fera que croître avec la guerre.
Et on parlera de la guerre de 14 dans la seconde partie de l'émission. On va faire une pause musicale avec un des titres de l'automne sur Inter. Voici le comeback de Jean-Louis Murat, ce bon vieux Murat. Le titre joué 3-3-3 comme la guerre de Troie.
cœur de Troie qui ne m'aime pas veut que foire la chanson. As-tu de moi qui ne m'aime pas veut que je perde la raison.
Le 23 septembre 1913, Roland Garros accomplit l'exploit le plus extraordinaire et le plus téméraire que l'on pût concevoir à l'époque, la traversée de la Méditerranée sur un appareil terrestre.
Philippe Collin.
Après 8 heures de suspense, moteur à bout de souffle, qui crache l'huile, réservoir à sec, il se pose à Bizerte. Il a donné au monde confiance en l'avion, écrit Blériot, le vainqueur de la Manche.
Sur France Inter.
L'écrivain Blaise Cendrars en parlait comme du document le plus extraordinaire et le plus pittoresque et le plus vivant que l'on puisse lire sur les débuts de l'aviation. De quoi s'agit-il ? Des mémoires de Roland Garros, pionnier de l'aviation, grand champion des meetings aériens. Il fut le premier homme à traverser la Méditerranée dans les airs le 23 septembre 1913. Voler comme Icare, un désir très ancré chez celui qui fut donc aussi écrivain, avec des mémoires d'une grande poésie, dont voici les toutes premières lignes.
Je pourrais croire à ma vocation. Dès le plus jeune âge, j'ai souvent rêvé qu'il m'était donné de voler, sans machine, avec les seules ressources de mon corps. Comment ? Il est difficile de l'expliquer. Je devais aspirer et retenir dans mes poumons le plus d'air possible, faire avec les bras des mouvements précipités très fatigants qui ressemblaient autant aux gestes du nageur qu'aux coups d'aile de l'oiseau. Et je volais d'un vol tangent, très pénible dans l'ascension, très agréable et très sûr dans la descente planée. J'ai connu le vol cauchemar et le vol rêve. Exemple de vol cauchemar. Je suis poursuivi par un taureau furieux, cerné contre un obstacle, un effort désespéré, je m'échappe par la voie des airs. Exemple de vol rêve. Par une nuit claire et calme, sans angoisse, mais avec une émotion très agréable, je sors par une fenêtre et je vole silencieusement au-dessus d'une ville éclairée, le plus souvent Nice. Je m'arrête au balcon, aux lucarnes des mansardes, je surprends les amoureux. À une époque où j'étais sujet à des hallucinations assez fréquentes, je m'étonne de ne pas être une fois réellement sorti par la fenêtre, tant l'illusion était forte.
Je remercie Eric Oswald pour la lecture de ces premières lignes, de ces premiers mots des mémoires de Roland Garros. Luc Robin, je rappelle que vous êtes historien, historien du sport, spécialiste du sport aérien. Quelques mots sur ce vol rêve, ce vol cauchemar. Il y a une grande poésie, une grande force littéraire dans la plume de Roland Garros.
Tout à fait, il y a une grande poésie, et puis moi je trouve que cette dimension anthropologique, cette manière de raconter cette sensation du vol, elle est absolument étonnante. Et je voudrais terminer, parce qu'on a coupé avant, il dit, je cite néanmoins mon cas, parce que je fus surpris de constater plus tard une grande similitude entre mes premières sensations de pilote et de lointaines réminiscences. Autrement dit, il est en train de nous expliquer qu'il avait déjà vécu en rêve ce qu'il allait ressentir en vol. Je trouve ça absolument...
Dans l'enfance, d'ailleurs, sans doute aussi. C'est aussi très
absolument,
beau. C'est aussi un rêve d'enfant.
Absolument fascinant. Et puis, pour terminer sur ce commentaire, je dirais que ça renvoie peut-être aussi aux merveilleux écrits de Bachelard sur l'air et les songes, c'est-à-dire cette dimension onirique du vol et tout ce que ça peut nous dire,
évoquer chez nous.
Voilà, donc je suis d'ailleurs, Blaise Cendrars l'avait mis en ce que vous venez de citer, cet extrait l'avait mis au début d'un de ses recueils de poèmes, donc ça n'est pas rien. Voilà, donc ce petit commentaire sur l'approche du vol par la sensation, le rêve et la comparaison, la mise en perspective au fond de ces impressions de rêveur et de ces impressions de pilote.
Absolument. Benoît Immermann, ces mémoires sont disponibles en intégralité aux éditions Phébus, une très belle édition. Elles sont suivies de journal de guerre, parce qu'il a tenu aussi un journal de guerre, on y vient. Après la traversée de la Méditerranée 1913, arrive la guerre de 14. À l'époque, on l'a beaucoup dit en première partie, l'aviation est un sport. Les militaires, notamment Foch, ne voient pas du tout l'intérêt des avions pour faire la guerre. Or, tout va changer avec cette première guerre mondiale, notamment à cause ou grâce à Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il va inventer? Que fabrique-t-il sur son avion, Benoît?
Alors je vais vous le dire évidemment, mais juste tout de même pour faire cette liaison et souligner la beauté du texte des mémoires, qu'effectivement c'est quelqu'un qui écrit bien, c'est pas un hasard si c'est un ami de Cocteau, qui l'a emmené Cocteau dans son avion et qui lui a fait faire son baptême de l'air. Le poème de Cocteau, Le Cap de Bonne Espérance, il y a des vers qu'il avait inscrits à l'intérieur même de sa carlingue, donc il est volé, c'est s'élever, c'est ce que disaient les pilotes de l'époque. Ce que traduisaient les pilotes, on était dans une dimension métaphorique et même philosophique. Donc il y a ça, et qui a perduré, puisqu'on parle de la guerre et qu'on rentre en guerre, ça perdure malgré cela, malgré les bombes, malgré les morts, etc. C'est une caste à part, les aviateurs, ce sont les as. Ils dominent, là aussi j'utilise la métaphore, mais ils survolent le conflit. Il y a ceux qui, en 14, sont les pieds dans la glaise et les pieds dans la boue, dans les tranchées. Mmh. Et vous avez au-dessus ces archanges. On fait même pas difficilement la distinction entre les Allemands qu'on vénère également, von Richthofen ou des Hellmann ou des pilotes comme ça. Ils sont dans la même catégorie. Ils ont autant de mérite et de bravoure que les Français. On attendra bien plus tard la Deuxième Guerre mondiale pour voir que l'aviation est porteuse de mort. Bien évidemment qu'elle l'était déjà dans la guerre 14, mais on faisait un peu un cas à part de ces pilotes qui étaient d'abord encore des oiseaux et d'abord des archanges.
Alors revenons à Garros, qu'est-ce qu'il invente sur son avion?
Grâce aussi à la poésie, puisqu'il a, on dit, l'anecdote, les historiens me contrediront peut-être, mais qu'il a un portrait de Verlaine sur son mur dans sa chambre, et qu'il y a un ventilateur qui est devant ce portrait de Verlaine, et il constate qu'il voit très nettement ce portrait de Verlaine
à travers l'hélice du ventilateur.
Et donc... Il transpose cette vision ou cette découverte avec son hélice
d'avion
et il dit, avec un fusil ou avec une mitraillette, je pourrais tirer à travers
mon hélice.
Son hélice. Donc il se dit, c'est possible et ça ne sera pas gênant. C'est une invention de mort créée par un poète, mais effectivement ça changera beaucoup la donne pendant la guerre 14-18.
Et ben, en fait, Luc Robin, c'est quasiment là que naît le combat aérien, parce qu'à la fois Garros, avec un ingénieur, va inventer cette mitraillette posée à l'avant de son avion, où il peut effectivement attaquer des avions allemands. Je crois qu'en 1915, en 15 jours, il gagne 3 combats aériens qui ont fait déjà aussi une sorte de héros de la Première Guerre Guerre mondiale. Et puis il va tomber, il va se faire canarder. Il n'aura pas le temps de détruire son avion, donc les Allemands vont récupérer cette pièce majeure et vont s'apercevoir de cette mitraillette posée sur l'avant de l'avion, et eux-mêmes vont perfectionner cette invention. Donc le combat aérien naît là, dans ces quelques semaines de 1915, Luc.
Oui, la chasse aérienne est vraiment née dans la guerre. En fait, au vrai, on l'avait pas vraiment imaginé avant la guerre, alors même s'il y avait quelques esprits comme Roland Garros, avec Raymond Saunier quand même, hein, qui avait pensé à cette histoire de tir à travers l'hélice. Alors je précise quand même que c'était pas tant. Alors il avait rêvé cette synchronisation, mais il l'avait pas mise en œuvre, parce que, et les essais étaient peu probants, on tirait dans l'hélice, oui. Et on blindait l'hélice pour que les balles qui passaient pas, ne brisent pas l'hélice. Donc c'était quand même assez audacieux.
Certaines balles étaient déviées, évidemment.
Exactement.
Voilà.
Oui, quand son avion est pris par les Allemands, c'est Anthony Fokker, en fait, hein, le Néerlandais, qui va perfectionner. Enfin, sans doute avait aussi son idée sur la question et va perfectionner, en le synchronisant ce coup-ci, le tir à travers l'hélice. Pour revenir à la chasse aérienne, je crois qu'il y a plusieurs temps dans cette guerre de 14-18, les premiers aviateurs avec les militaires, il y en a quelques-uns, militaires, mais pas tant que ça, sont les sportsmen qui vont au combat, parfois en offrant leur aéroplane. Roland Garros fait partie de cette famille des sportsmen. D'ailleurs, ils se connaissent tous, hein, allemands, français.
Oui.
Voilà. Le premier combat aérien, c'est Franz Ekenau en octobre, à coup de pistolet, et puis ça va, évidemment, tout cela va augmenter, et on va rentrer véritablement dans l'invention de la chasse aérienne, avec des combats beaucoup plus meurtriers. Mais néanmoins, on va quand même, avec quelqu'un comme Jacques Mortan, dans la guerre aérienne illustrée, compter les points un petit peu comme en Ligue 1. Hein. Et donc cette conception de la guerre comme un sport, elle est aussi beaucoup construite par la presse. Et ces aviateurs, dont Roland Garros, sont en quelque sorte des héros sportifs, aviateurs, militaires, engagés. C'est une image un petit peu confuse, hein, qu'on est en train de construire. Voilà, celle du grand match.
Alors Benoît Herrmann, il est donc prisonnier, Roland Garros, il est fait prisonnier en 1915. C'est une forte tête, un grand caractère, donc on le déplace beaucoup dans les camps en Allemagne pour éviter qu'il ne s'échappe. Il va parvenir à s'échapper en 1918 avec un camarade. Ils vont se déguiser en officier allemand. Ils vont réussir à franchir la frontière et revenir en France, donc en 1918, avant l'armistice. Là, que fait-il Roland Garros? Que fait-il? Il pourrait très bien être conseiller de Clémenceau, par exemple, comme Clémenceau le voudrait. Mais non, il va reprendre le combat.
Il repart. Moi, quand je lis les mémoires de Roland Garros, la période de la guerre, je pense à la grande illusion de Jean Renoir. Parce que, encore une fois, on est sur ce schéma-là, où vous vous souvenez de von Schreim avec sa Minerve, qui a prisonnier Pierre Freinet, ce capitaine. Ils sont sur la même longueur d'onde, ils parlent le même langage.
Benoît, il paraît que Renoir se serait inspiré de Roland Garros pour le personnage de Boieldieu, donc le grand officier français prisonnier en Allemagne.
Vous avez cette classe, ce langage, cette manière d'être, ce quant à soi, etc., avec une population aujourd'hui incarnée par Gabin, etc., qui sont d'une autre classe sociale. Mais effectivement, vous avez raison, ce sont des êtres à part, ce sont des chevaliers de l'air, comme on les appelle. Desgranges, qui est un grand journaliste sportif, disait c'est un expert en vol migratoire.
C'est beau,
c'est très beau. Et c'est donc l'inventeur du Tour de France qui nous dit ça. Donc effectivement, ils sont à la fois beaux, courageux et sportif.
Luc, il va donc repartir au combat. Le 2 octobre 1918, il abat un quatrième avion allemand. Et puis arrive le 5 octobre, la veille de ses 30 ans, 1918. Qu'est-ce qui se passe, Luc Robène, dans le ciel?
À vrai dire, on a assez peu de renseignements sur la fin de Roland Garros. Un de ses équipiers dit l'avoir vu se dégager à un moment donné et puis disparaître. Alors, une hypothèse.
Il est en vol. Hein.
Il est en vol et
il
puis.
Est pris en chasse.
Et puis tout d'un coup, on le voit plus.
Hein, oui.
On est donc ce 5 octobre 1918. Une hypothèse qui a été avancée et qui est plausible, c'est que Roland Garros aurait détruit lui-même une pale d'hélice de son aéroplane en tirant à travers, et que ça aurait désintégré. Enfin, le fait de tourner de manière bancale aurait pu désintégrer l'avion. Donc, il aurait pu comme ça, parce que les descriptions qu'on a, c'est d'un avion désarticulé qui tombe et on voit plus Garros. Voilà.
Et donc Garros meurt le 5 octobre 1918,
exactement.
La veille de ses 30 ans.
Donc,
à Vouziers, dans les Ardennes, où il est enterré aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Hein. Il est toujours enterré à Vouziers, me semble-t-il, je crois.
Je n'en sais rien.
Je crois qu'il est enterré à Vouziers. Je pense qu'il est enterré à Vouziers.
C'est possible.
En tous les cas, là où il est mort. Alors faisons un bond dans le temps en avant. Ah, nous étions en 1918, allons en 1928, 10 ans plus tard, tout d'un coup, revoilà Émile Le Sieur, hein, l'ami proche de Roland Garros à HEC après le bac. Qui est Émile Le Sieur, Benoît Herman, et quelle idée lui prend-il de nommer un stade de tennis Roland Garros?
C'est la faute de la Coupe Davis.
Voilà, la faute de la Coupe Davis.
La faute de la Coupe Davis qui était trustée pendant des années par les Américains, par les Anglais, par les Australiens. Et tout d'un coup, vous avez une petite équipe française en 1927, qui va aux États-Unis, parce que la particularité de la Coupe Davis, c'est que le vainqueur ne dispute pas la compétition, il est déjà qualifié pour la finale et il attend son éventuel adversaire sur son terrain.
Sur son
terrain. À domicile. Donc les Américains attendent le challenger, et cette année-là, en 1927, ce sont les Français.
Le tennis des années folles n'aurait pas existé sans le tennis de la belle époque. Au début du siècle, il s'agissait d'aimables ébats de société. Dans l'île de Puteaux, le long de la Seine, des héroïnes de Marcel Proust, flanquées de partenaires à forte moustache, papillonnaient sur des cours poussiéreux dont les raies de toile étaient clouées à même le sol. Quand commencèrent les premières parties sérieuses, le jeu se déplaça sous les ombrages du parc de Saint-Cloud. Là, à la Faisanderie, le stade français ouvrit ses cours autour d'un central de 3000 places où se disputèrent les premiers championnats du monde sur terre battue. C'est sur ce central qu'en 1927, à l'issue d'une partie mémorable, René Lacoste parvint à terrasser Tilden, le grand champion américain surnommé Big Bill.
Ce sont les fameux mousquetaires.
Les quatre mousquetaires.
Pourquoi mousquetaires? C'est Paul Claudel qui a trouvé ce surnom, puisqu'il était ambassadeur de la France aux États-Unis. Et ces quatre, Cochet, Brugnon, Borotra et Lacoste, vont battre les États-Unis. Le grand Bill Tilden et Johnson, son acolyte, et ils vont les battre. Et donc, il faut bien que l'année suivante, ils reçoivent à leur tour, en tant que vainqueur de la Coupe Davis, un challenger. Donc, pour ça, il leur faut un stade. Il faut
qu'on soit digne.
Digne de cet exploit et de cette aventure. À l'époque, il y a un terrain assez important du côté de la Porte d'Auteuil qui fait 3 hectares, qui est convoité par énormément de sociétés.
Immobilières?
Pas vraiment, mais il y a la Société Sportive du Louvre.
D'accord.
Il y a la Fédération Française de Boxe. Et il y a en particulier un consortium qui est réuni autour du Stade français et où siège le dénommé Émile Le Sieur, qui est un camarade de Roland Garros.
Grand ami de Roland Garros.
Qui a fait HEC avec lui et qui veut perpétuer sa mémoire, la mémoire du héros.
Et qui dit, je veux bien mettre du pognon dans cette affaire, à la seule condition que le stade s'appelle Roland Garros.
Absolument. Il obtiendra gain de cause assez facilement.
Oui, oui.
C'est avec le recul qu'on se dit, tiens, pourquoi Roland Garros?
C'est un tel héros, évidemment. À l'époque,
c'est un tel héros, c'est un tel sportif. Il connaissait tout de même le tennis, donc il y avait aucune raison qu'on ne donne pas son nom à ce stade.
Et puis, Benoît, pour gagner Roland Garros, il faut être courageux, intelligent, opiniâtre. 3 grandes qualités de Roland Garros, donc c'est assez logique finalement.
Ça paraît assez logique. Mais en plus, c'est un stade moderne, ce qui lui convient bien. C'est pour la première fois, on fait appel à un architecte intéressé aux enceintes sportives. Le stade est un peu copié sur l'hippodrome de Buenos Aires. Et donc, on invente quelque chose d'assez moderne, d'assez nouveau. Et c'est un stade étonnant quand on y pénètre pour la première fois. Et surtout à l'époque, c'est une grosse capacité. Donc c'est un bel honneur pour Roland Garros.
Luc Robben, c'est vrai que, revenons 2 secondes à l'aviation, Garros incarne un trait d'union entre, sans doute peut-être, je ne sais pas si vous allez me corriger, c'est vous l'historien, entre une sorte de pratique, on va dire, du vol aristocratique à une forme d'aviation, on va dire, peut-être pas forcément démocratique, mais plus orienté vers une idée de progrès. Est-ce que c'est la bascule, Roland Garros?
En tout cas, il est un de ceux qui ont réfléchi à l'utilité de l'aviation. Donc déjà, on est dans un usage beaucoup plus large que le simple loisir aristocratique. Et puis également, il a réfléchi à ce que devrait être un enseignement de l'aviation, un enseignement cohérent, des essais, etc. Alors que, je le répète, pratiquement jusque dans les années 1910-11, on apprend à voler tout seul. Et ensuite, les écoles qui vont se monter sont très largement perfectibles. C'est l'analyse de Garros. Donc, dans ce sens-là, oui, je dirais que c'est un homme pratique qui a une vision aussi du progrès et de l'utilité au-delà du sport même, hein, de ce que doit être l'aéroplane, l'usage de l'aéroplane. Voilà. Donc, sur ce volet-là, sans doute, on peut dire qu'on dépasse, on déborde du cadre strictement de la classe de loisirs, hein, pour s'ouvrir à une vision plus démocratique, sans doute.
Très bien. En tout cas, j'espère que vous en saurez plus désormais sur Roland Garros après après cette émission. Merci à vous de l'être venu ce soir. Vous étiez passionnant l'un et l'autre à écouter. Je rappelle que vous pouvez lire les mémoires de Roland Garros disponibles aux éditions Phébus. Vous pouvez lire également la biographie d'Albert Londres, contemporain de Roland Garros. Un livre magnifique signé Benoît Emmermann aux éditions Paulsen. Et procurez-vous les publications consacrées à l'histoire du sport de Luc Robben, historien et professeur d'université à Bordeaux. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Philippe Collin, L'œil du tigre sur France Inter.
Pendant deux semaines, des dizaines de milliers de fanatiques vont donc converger vers le stade Roland-Garros. Mais au fait, qui était Roland-Garros? Anne-Sophie Christophie a eu la malicieuse idée de poser cette question perverse à quelques-uns des 24 000 spectateurs présents aujourd'hui à Paris.
Ils sont moins sportifs, je pense, mais je ne sais pas.
Je pense que c'était un rugbyman.
Il n'est pas dans l'équipe de Limoges?
Quel sport faisait-il là?
Qui ça? Du ping-pong? Non, qui ça? Roland Garros, c'est celui qui a innové les Jeux Olympiques.
Un aviateur de la Première Guerre mondiale.
Bravo.
J'ai gagné une place pour la finale.
Non.
Thinking About You, une chanson signée Lee Fields. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Et ce soir, on cause tennis avec Eric Satie et Claude Debussy. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors ce soir, je le disais, Claude Debussy et Eric Satie, les amis de la balle jaune.
Oui, dans la continuité de l'émission du jour, on va donc parler de tennis. Alors comme c'est un sport qui se pratique à deux, eh bien j'ai choisi d'évoquer deux monuments de la musique classique française qui sont décédés il y a un siècle environ à Paris, Claude Debussy et Eric Satie. Alors comme Roger Federer et Raphaël Nadal aujourd'hui, ces deux-là étaient à la fois rivaux et amis, et leur confrontation pouvait aboutir à de véritables chefs-d'œuvre. Illustration avec la première Gymnopédie, une valse composée par Satie et orchestrée par Debussy.
Magnifique, comme à chaque fois qu'on l'écoute. Mais quel est le rapport entre ces deux compositeurs et le tennis?
On y arrive.
Ah.
Alors, Claude Debussy et Eric Satie ont un point commun étonnant. Ils ont tous les deux composé une œuvre dans laquelle le tennis joue un rôle essentiel.
Tiens donc.
Donc c'était juste avant la Première Guerre mondiale, à un moment où ce sport était de plus en plus pratiqué et médiatisé en France. L'hebdomadaire Tennis, par exemple, a fait son apparition dans les kiosques en 1910. Deux ans plus tard, Debussy a composé un ballet intitulé « Jeu ».
Un ballet qui parle de tennis, donc.
Bon, en fait, cette œuvre raconte l'histoire d'un homme et de deux jeunes filles qui partent à la recherche d'une balle de tennis avec en fond une musique qui incite à la pratique sportive. Mm-hmm. L'illustre critique musical Émile Vuillermoz a en effet décrit cette partition comme délicieusement frémissante et bondissante. On l'écoute.
Frémissant et bondissant. Donc si je comprends bien, le tennis ne constitue ici que le point de départ de l'œuvre de Debussy, mais ne tient pas un rôle essentiel dans ce ballet, c'est bien ça ?
Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, quand ce ballet est mis en scène, il est accompagné de chorégraphies modernes, où l'on voit un danseur et deux danseuses tenir une raquette et exécuter harmonieusement des gestes évoquant ceux des joueurs de tennis. Mais en revanche, lors de la première de jeu en 1912, la chorégraphie avait été imaginée par le célèbre danseur russe Vaslav Nijinsky et sa création à l'époque n'avait strictement rien à voir avec la pratique du tennis. Ce qui avait d'ailleurs beaucoup déplu à Erik Satie.
Pourquoi ?
En fait, il trouvait que le ballet de son ami Debussy ne proposait pas une transposition convaincante du tennis en musique, notamment en raison de la chorégraphie un peu ratée de Nijinsky. En réaction, deux ans plus tard, au printemps 1914, Erik Satie a composé « Sport et divertissement », un cycle de 21 pièces brèves pour piano. Et la dernière de ces pièces se nomme « Tennis ».
Et quelle est l'ambition de Satie avec ce morceau ?
Alors l'ambition, elle est assez élevée. Il s'agit de restituer au piano une partie de tennis.
Eh ben.
La mélodie, qui saute constamment de l'aigu au grave, est censée traduire le comportement de deux joueurs qui tapent à tour de rôle dans la balle. Écoutons « Tennis » d'Erik Satie.
Là, on vient d'écouter en entier ce morceau de Satie qui s'intitule « Tennis ». Et donc vous, quand vous écoutez ce morceau, Pierre-Étienne, en fermant les yeux, vous imaginez un match de tennis.
Eh bien, je vais être tout à fait honnête, non. Voilà. Mais bon, il y a des gens avec qui ça marche. Dans le livre « Erik Satie » de Jean-Pierre Armangot, on peut lire à propos de tennis « La musique imite à merveille le bruit dans les raquettes ». Bon, à mon très modeste niveau, je me contenterai de remarquer que quand Debussy et Satie s'attaquent à la petite balle jaune, bon, c'est un peu comme quand les champions de tennis français abordent Roland-Garros. Ils démontrent au départ beaucoup de talent, beaucoup d'ambition, mais à l'arrivée, le résultat est parfois un peu déconcertant.
Déconcertant. Ou alors, Pierre-Étienne, leur génie nous échappe peut-être.
Ouais, je vais réessayer.
Allez, bonne soirée Pierre-Étienne, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Salut. Et voilà, cette septième émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri, Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Clément Vuillier. Merci Albi, merci à toute l'équipe de l'œil du tigre. Merci à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.